Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin sur France Culture, dans Chrétien d'Orient, je suis en compagnie du père Alberto Ambrosio, dominicain qui a vécu et travaillé à Istanbul sur l'histoire des religions et notamment sur l'histoire du soufisme ottoman dont vous êtes devenu l'un des éminents spécialistes. Mais point de soufisme ce matin, vous êtes déjà venu sur notre antenne plusieurs fois, l'antenne de France Culture en général, parce que je sais que vous êtes un habitué aussi de mon confrère sur l'islam, mais un livre beaucoup plus personnel, beaucoup plus intime, qui s'appelle « Saison intérieure », un livre qui vient de paraître aux éditions Empreintes Temps Présent, un éditeur que nous aimons beaucoup et que nous soutenons. Vous êtes aussi co-responsable du séminaire « Revêtir l'invisible, la religion habillée » du Collège des Bernardins. Alors là, vous nous en direz un petit peu plus. Je signale aussi que vous êtes professeur au Grand Séminaire de Luxembourg. Alors, revêtir l'invisible aux Bernardins, de quoi s'agit-il ?
Eh bien, revêtir l'invisible, c'est un nouveau projet de recherche que j'ai mis en place d'abord dans mon esprit depuis 2 ans. C'est-à-dire que c'était un long processus, celui d'atterrir de nouveau en Europe, Paris et Luxembourg, où j'enseigne donc au Grand Séminaire à la Luxembourg School of Religion and Society. Et donc c'était un long atterrissage. Il m'a fallu 5 ans pour vraiment remettre les pieds en Europe, entre Paris et le Luxembourg. Et je me disais, mais toute mon expérience turque à Istanbul, tous mes travaux, ma recherche, comment elle peut revivre aujourd'hui dans cet espace où l'économie, et j'ai envie de dire tout de suite, l'économie du luxe a une importance inouïe dans la société. Et c'est là que la question des apparences, soi-disant des apparences, m'est apparue comme une question essentielle, c'est-à-dire les apparences et donc le vêtement. Et je me suis mis à rechercher s'il y avait eu des travaux sur la question du vêtement, de la mode vestimentaire, ou, comme disent certains historiens, justement, de la mode, des pratiques vestimentaires et des religions. Et étonnamment, cette discipline n'existe pas encore et pas de manière mûrie, de manière tout à fait complète. Et donc, je m'y suis mis comme ambition, c'est une ambition, mais que je suis en train de monter, de créer carrément la discipline d'études entre vêtements, mode et religion. Donc, j'ai composé un séminaire de recherche. J'ai fait en sorte que le séminaire de recherche soit entre le Collège de Bernardin et la Luxembourg School of Religion and Society et qu'on commence à réfléchir. J'ai composé un très bon comité scientifique de spécialistes à la fois de l'histoire du vêtement, de l'anthropologie du vêtement, de l'histoire des religions, de la philosophie. Il y a quelques philosophes qui travaillent sur ces questions-là. Et donc, on a démarré justement au mois d'octobre 2019, sachant que moi, j'avais commencé à travailler personnellement, en envisageant les personnes depuis déjà 2 ans. Et moi-même, j'ai commencé à écrire, j'ai déjà écrit des articles sur ces questions-là et je planifie des livres, etc. Donc, la vie normale d'un chercheur enseignant qui maintenant s'occupe d'un nouveau projet de recherche. Alors, ce qui me paraît très intéressant, c'était cette question de la mode vestimentaire, parce que elle semblerait, historiquement, qu'elle soit vraiment la quintessence de la modernité. En fait, la modernité européenne se manifesterait sur la question de la mode. Et donc, on pourrait me dire, mais alors vous oubliez tout ce que vous avez fait en islam ? Oui, en islam, oui, et donc à Istanbul. Non, pas du tout, parce que cette question-là se pose autrement. Est-ce que la mode est un phénomène purement européen et occidental, ou bien ça touche aussi l'islam ? D'où la question, éventuellement, comme on dit, de la mode modeste, de la mode pudique, le voile, etc., etc.
Alors un autre point qui me parle quand je vous écoute, c'est la question du christianisme oriental, bien entendu, parce que vous avez habité à Istanbul, donc vous savez combien le vêtement des sacerdoces est très important dans le rituel.
Vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que mon séjour à Istanbul pendant 11 ans, presque 12 ans, je ne le réunirai jamais parce que c'est une composante très importante de ma vie et de ma réflexion actuelle, même dans un domaine qui pourrait paraître tout à fait original, un peu disparate par rapport à ce que j'ai fait. Mais comme vous dites, effectivement, quand j'arrivais dans ma paroisse, dans l'église que nous partageons, les dominicains partage un corps avec les Syriaques orthodoxes, et de voir ces prêtres Syriaques orthodoxes dans leur costume, ça m'a toujours impressionné. C'est-à-dire qu'il y a dans le christianisme oriental, il y a encore une attention encore plus développée concernant justement ce qu'on pourrait appeler, mais c'est faux, apparence. Donc dans l'apparence, donc dans le costume religieux, il se déploie toute une pensée. Le christianisme d'Orient, vraiment, c'est un lieu de passage, en fait, de culture. Je pense qu'il faut, il faut aussi s'en rendre compte et le développer dans la recherche, même dans des recherches qui sembleraient, comme celle-là, tout à fait éloignées.
Nous pourrions évoquer aussi les célébrations arméniennes. Vous vous souvenez ces fêtes de Pâques dans les églises arméniennes du quartier de Péra,
tout
avec
fait.
Des tenues qui sont, sont bouleversantes.
Absolument. Et puis, il y a cette notion de solennité, en fait, qui fut aussi la notion de la liturgie catholique latine au lendemain du Concile de Trente. En fait, si on va sur l'idée de solennité, de luxe, ce n'est pas du tout une nouveauté, je dirais, de la culture profane, parce que les églises, les cultures même vestimentaires des églises orientales et aussi latines, romaines, après le Concile de Trente, étaient et sont encore des cultures vestimentaires d'une extrême richesse, d'une solennité unique et donc d'un luxe. Et donc, il faut s'imaginer que la notion même de luxe nous vient justement du cœur de la religion, de la pratique de la religion.
Alors revenons un petit peu, attardons-nous un petit peu même sur cette question, pardon, qui me semble importante. Vous avez mentionné vous-même le mot d'apparence, mais ne s'agit-il pas de mystère aussi ? Le vêtement n'entretient-il pas justement cette distance que nous devons avoir avec la chose sacrée ?
Oui, vous dites exactement ce que je pense, c'est-à-dire que j'ai utilisé le mot apparence parce que c'est le premier mot par lequel on se comprend. Mais en fait, le vêtement est tout sauf que de l'apparence. Et c'est pour ça que je suis en train, avec le comité scientifique, par ce séminaire, la mode, en fait, est tout sauf que quelque chose de futile, d'inutile, parce que elle révèle, comme vous dites, un vêtement révèle toujours quelque chose d'une personne et d'une société, d'une culture et encore plus donc d'une religion. Donc la religion habillée, revêtir l'invisible. Donc on ne s'habille jamais de manière anodine, même quand on n'y pense pas, il y a une culture derrière qui est véhiculée. Ne serait-ce qu'une culture de l'indifférence. Il y a des cultures où on ne fait pas très attention. Mais justement, c'est parce que toute cette culture-là, cette société, a mis en place des repères comme quoi c'est plutôt indifférent de s'habiller d'une manière ou d'une autre. Et il y a des cultures, encore aujourd'hui, où on va bien, comme vous dites, en Orient, où le dimanche matin, dans une église chrétienne d'Istanbul, les gens arrivent habillés comme il faut, encore avec les vêtements du dimanche, en dimanché, n'est-ce pas, comme on dit en français. On ne peut pas réduire ça en disant oui, c'est des cultures plus ou moins développées. Non, c'est qu'un vêtement révèle, ouvre au mystère.
Alors un autre point, voilà, le point complémentaire de notre entretien ce matin, c'est celui de l'écriture, celui d'une autre culture et celui de la confession. Alors j'ai mentionné votre ouvrage en entrée qui sont les saisons intérieures. Alors je vais lire quelques lignes de votre introduction. Un jour unique peut même ressembler à lui seul aux quatre saisons et rassembler en lui les 12 mois spirituels de l'année intérieure, un peu comme sur l'archipel des Açores, où l'on dit qu'en un jour on peut assister aux quatre saisons d'une année. Notre vie est comme cela, notre intériorité également. Nous sommes des êtres en mutation permanente et il n'est pas possible d'avoir un semblant de stabilité émotionnelle, intellectuelle et spirituelle sans vivre à longueur des journées, des états différents. Comment vous est venue l'idée de cet ouvrage ?
Alors, cet ouvrage, c'est vraiment la quintessence de ces 10 dernières années. C'est-à-dire, c'est un peu mon miroir, et c'est le miroir aussi des expériences de la vie. C'est aussi beaucoup de réflexions sur soi-même, sur ce que l'on vit, sur ce que l'on est amené à vivre extérieurement. Il m'est apparu à un moment donné que notre vie intérieure était exactement comme celle de l'extérieur. À cette époque d'écologie, d'une attention écologique, il y a une écologie intérieure, j'ai envie de dire. Et pour qu'on découvre une écologie intérieure, il faut découvrir que notre vie intérieure est faite de saisons, de climat intérieur. Et donc, à un moment donné, il m'est apparu clair que notre vie, comme vous venez de lire ce passage que j'écris, évidemment, que notre vie est segmentée par ce passage, cette transformation continue, ce changement continu de saison intérieure. Oui, je le signe encore aujourd'hui. Chaque jour peut commencer par un hiver, puis passer à l'été et l'automne. Et non pas parce qu'on est instable intérieurement, non pas parce qu'on est instable psychologiquement. On peut être des personnes tout à fait stables, ou soi-disant stables, parce qu'après, on a bien vu, grâce à la psychologie et à la psychanalyse, que ces questions-là ont un sens, mais relatif aussi, de stabilité, de normalité. Aujourd'hui, plus personne ne parlerait de normalité, donc... Voilà, les saisons intérieures me semblent restituer davantage ce qui se passe à l'intérieur de nous au niveau psychologique et d'autant plus au niveau spirituel. Il y a des moments où on a envie de prier, il y a des moments où on n'a pas envie de prier. Et peut-être dans ces moments où on n'a pas envie de prier, il faut avoir le courage de ne pas prier. Vous voyez, et je dirais ça presque à l'encontre de ce qu'on pourrait s'imaginer, qu'il faut s'efforcer de prier, etc. Oui, il y aura aussi le moment où il faut s'efforcer de prier. Mais tout cela, c'est parce que en vertu d'un réalisme spirituel.
Réalisme spirituel, ouais. C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on ne nie pas notre nature humaine, même au niveau spirituel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que l'être spirituel, que l'homme et la femme spirituelle soient des êtres complètement désincarnés, qu'ils doivent obéir à des lois tout à fait supérieures et en niant sa propre réalité. J'ai parlé du tombeau vide. Il y a des moments de vide intérieur, et d'ailleurs les grands mystiques l'ont toujours dit. Il y a des moments où on se dit, mais est-ce que j'ai la foi ou pas ? Il y a des moments où on a envie de prier, on se rend davantage sensible à ces soleils qu'est Dieu, ou ce Dieu qui est un soleil pour notre intériorité. Et en disant cela et en écrivant cela, je ne plaide pas pour chacun fasse ce qu'il veut selon les humeurs. En fait, je ne parle pas d'humeur du moment. Bien sûr qu'il y a les humeurs du moment, mais les saisons intérieures, c'est une prise de conscience de sa réalité, de sa propre réalité spirituelle intérieure.
Alors, vous vous inscrivez dans une lignée, dans un parcours mystique, je pourrais dire, parce que vous citez Maître Eckhart, d'abord, oui. Auquel vous êtes très attaché, à certains théologiens protestants même, oui. Et à Saint Jean de la Croix.
Absolument.
Voilà, donc vous êtes vous-même à l'écart, d'une certaine manière, de votre vie, voilà, de dominicain, on l'a mentionné, de votre vie de chercheur, d'historien. Vous creusez un autre sillon, qui n'est pas commun, me semble-t-il.
Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je sais que dans mon charisme dominicain, nous plaidons depuis toujours, depuis l'histoire, pour une liberté, une véritable liberté intérieure, et que tout en restant dans le cadre de la foi, de la doctrine, il y a beaucoup de liberté, et ça on l'a beaucoup oublié dans l'Église catholique. Ça on a beaucoup oublié dans l'Église catholique, que dans un cadre qui est celui de la foi, de la doctrine, d'un enseignement officiel que moi je n'ai aucune envie de renier, je pourrais discuter sur l'un ou l'autre point, mais enfin je crois au credo du dimanche, je crois à beaucoup de points de la doctrine, tous. Mais enfin, en m'inscrivant dans ces cadres-là, il y a beaucoup de demeures intérieures, comme dirait Thérèse des Lisieux en reprenant l'évangile. Il y a beaucoup de liberté. Donc oui, vous pouvez passer par Maître Eckhart, Jean de la Croix et Dietrich Bonhoeffer, que j'aime beaucoup. Mais enfin, et cette liberté, en fait, elle vient du fait que j'ai aussi grandi à l'ombre d'une tradition catholique assez stricte, assez classique. Donc je sais où il y a les repères. Le carcan est toujours là, donc je peux m'en écarter un tout petit peu, mais je sais bien où sont les repères. Donc en fait, c'est là qu'on constate que une tradition bien ancrée n'est pas en dépit d'une véritable liberté et liberté intérieure. Au contraire, une tradition qui nous a été parfois donnée de manière un peu massive. Je le dis, dans ma formation, j'ai étudié pendant 6 ans Thomas d'Aquin, 4 heures par jour, à force, sur 6 ans, on a un vrai carcan de classique. Mais enfin, ça n'a pas été en dépit d'une liberté intérieure. J'ai toujours lu les mystiques, j'ai étudié l'islam, j'ai étudié le soufisme, j'essaie aussi de m'en nourrir.
Nous sommes ce matin en compagnie du père Alberto Ambrosio pour évoquer un ouvrage qui vient juste de sortir, Saison intérieure aux éditions Empreinte temps présent. Je crois que vous vouliez nous lire un petit passage.
Quelques expériences que j'ai traversées m'ont donné la certitude que cette question tarot de l'esprit ronge la tranquillité. La première de ces expériences est liée à l'histoire d'un frère dominicain. J'étais très jeune frère dominicain, dans notre jargon. À l'issue d'un examen sur l'islam, j'avais offert ma disponibilité pour passer la nuit au chevet de ce frère qui venait de subir une intervention chirurgicale anodine, mais qui avait eu pour principal effet d'engendrer une étrange réaction d'agitation, de nervosité. Bref, l'excitation était telle qu'on ne pouvait pas le tenir, l'eût-on cloué à son lit. C'est ainsi qu'un autre frère et moi nous étions proposés pour essayer de le calmer et en tout cas de passer la nuit à son côté. À peine arrivés, nous nous sommes sentis désemparés. Le frère était en train d'en dire et d'en faire de toutes les couleurs. Les sœurs de la clinique ne savaient plus à quel saint se vouer, et les médicaments ne produisaient aucun effet. Alors, au fond de moi-même, je me surprends à formuler l'idée qu'une pensée un peu délirante appelait en réponse une pensée ayant toutes les apparences de l'irrationalité. À ce frère déjà septuagénaire, mais qui n'en était qu'à sa première intervention chirurgicale, je demandais s'il voulait m'entendre lui raconter une histoire, une simple histoire. Puisqu'à l'époque, je lisais un maître de l'imagination, Gianni Rodari, et en particulier ses fables au téléphone, je lui proposais de lui raconter une histoire. À ma grande surprise, ce frère, très sérieux, mais dont les défenses étaient peut-être diminuées, me répondit par l'affirmative. Pendant que je racontais une histoire inspirée de ces fables, ce vieux religieux glissa très doucement dans le sommeil. La nuit s'écoula dans le plus grand calme, et nous autres, les deux jeunes frères, pûmes même nous détendre. Vers 6 heures du matin, dès qu'il ouvrit les yeux, il me fit tout go ce récit. « Tu sais, lorsque j'étais officier pendant la Deuxième Guerre mondiale, prisonnier dans un camp, tu as dû déjà entendre dire que j'ai passé quelque temps dans un camp, n'est-ce pas ? J'avais à côté de moi un compagnon de mes aventures. Tout à coup, les soldats allemands commencèrent à tirer au petit bonheur, dans le tas, en visant vaguement des ennemis. Mon compagnon tomba sous les balles ennemies, mort sur le coup, comme à l'improviste. Moi, j'étais resté là, sans comprendre, debout, bêtement vivant. Je n'ai jamais compris pourquoi c'est lui qui tomba sous le feu de l'ennemi, pendant que moi, je restais bouche bée, vivant quoi.
Vous avez 22 ans, je crois, à l'époque, vous êtes séminariste, séminariste, voilà. Et cette rencontre, cet événement, vous transforme, vous confirme dans votre vocation ?
Tout à fait, parce que, comme je le dis dans ce chapitre, dans cette saison intérieure, il y a toujours la question en nous, j'explique tout de suite après que c'est une question parfois de culpabilité, pourquoi moi et pas un autre ? On pourrait se le poser aussi pour la vocation, pourquoi moi je suis appelé et je ne suis pas plus digne qu'un autre ? Des fois je suis moins gentil, je ne suis pas meilleur que les autres sûrement, et pas les autres alors que je vois d'autres, des jeunes qui ont plus de capacités, qui ont une formation religieuse meilleure que la mienne. Donc oui, ça m'a confirmé dans la vocation, 30 ans après presque, j'écris cette histoire, donc ça veut dire qu'elle est toujours en moi. J'ai toujours cette idée instantanés intérieurs, c'est-à-dire des moments de vie qu'on vit et qui restent et qui sont là fertiles dans la vie spirituelle, dans la vie intérieure. Donc oui, il faut continuer. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi moi j'ai eu la vocation et pas un autre? C'est à nous d'assumer nos responsabilités sans culpabilité. Et même au-delà de cette histoire, mais tout en se référant à cette histoire, on pourrait se dire pourquoi nous restons toujours vivants et pas d'autres qui tombent sous le poids des souffrances, des maladies, des abus, etc.
Une question importante, c'est celle de l'histoire. C'est le récit que vous faites à ce vieil homme. Donc quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a un bagage intellectuel que l'on devine très puissant. Et en fait, une simple histoire, le calme.
Je suis de plus en plus convaincu, même pour moi-même, même pour mon écriture, que je dois me livrer à une forme de récit, à des formes de récit. J'en ai déjà écrit en italien. C'est-à-dire que le récit, aujourd'hui, le récit, qu'il soit plutôt en termes de fiction, et donc la littérature, j'ai envie de dire, et c'est paradoxal, c'est le véritable langage humain. Même la science, quelque part, c'est un genre littéraire, tout est soumis à la loi de la littérature, tout est récit. Donc, quand je dis récit, je me focalise sur le poids de l'imagination. En fait, le récit permet d'imaginer, et nous avons besoin de développer cette imagination. Nous l'avons un peu trop méprisée. On a laissé le champ de l'imagination justement à la littérature, au cinéma, mais on a peur de faire entrer le récit et peut-être même un peu de fiction dans la spiritualité, dans la vie intérieure.
Vous prêchez avec des histoires?
Il m'est arrivé, oui, il fut un temps où je le faisais beaucoup plus régulièrement. Après, on m'a fait quelques remarques, c'est-à-dire que je partais toujours d'une expérience de vie, d'un récit de vie. Et c'est vrai qu'il faut ancrer la prédication dans l'histoire de la vie.
Nous étions ce matin avec le père Alberto Ambrosio pour évoquer ses saisons intérieures en toute bonne librairie aux éditions Empreintes. Merci père Alberto.
Merci Sébastien. Et comme un père maître m'avait appris, il faut prier pour les personnes que tu vas rencontrer. Eh bien, je ne vous rencontre pas physiquement, mais je prierai pour vous.
Je remercie pour la réalisation et la technique de cette émission Dany Journaud, Stéphane Touvenin et Claire Poinsignon. Nous retrouvons le service protestant. Bon dimanche.